vous écoutez France Culture, il est midi et demi. L'heure des informations avec vous, Antoine Maret, bonjour.
Bonjour Raphaël, bonjour à tous. Au sommaire de ce journal, on en sait un peu plus sur la prochaine réforme de la SNCF. Le gouvernement va déposer le mois prochain un projet de loi par ordonnance. C'est ce que vient d'annoncer Édouard Philippe. L'exécutif veut ainsi éviter le blocage d'une réforme qu'il juge nécessaire. Parmi les mesures annoncées, la fin des recrutements sous le statut de cheminot. Malaise aux médias. Après seulement un mois d'existence, la présentatrice phare de cette web TV proche de Jean-Luc Mélenchon vient d'être écartée. Aude Rossigneux évoque un licenciement et se dit assommé, une version contestée par la direction du site internet. Dans l'actualité internationale au Royaume-Uni, le chef du parti travailliste veut négocier une nouvelle union douanière avec l'Union européenne. Cette position de Jeremy Corbyn sur le Brexit était attendue depuis longtemps. L'invité de cette édition sera le député de La République En Marche, Pierre-Alexandre Anglade, élu des Français de l'étranger au Benelux, avec qui nous parlerons d'Europe. Midi 55, seconde partie de la Grande Table, avec vous Raphaël Bourgois.
Notre invitée sera Lucille Schmitt qui a co-dirigé le dernier numéro de la revue Esprit, Les Mondes de l'écologie. Avec elle, on parlera agriculture, politique et écologie.
On vous retrouve dans 54 minutes. Attention, sujet brûlant, celui de la réforme de la SNCF. Plusieurs gouvernements s'y sont cassés les dents. L'échec du plan Juppé en 95 est dans toutes les mémoires. Le Premier ministre de l'époque avait dû jeter l'éponge après la paralysie du pays par les cheminots. 22 ans plus tard, c'est un proche d'Alain Juppé qui va tenter une nouvelle réforme du rail, cette fois dans un contexte bien différent. Bonjour Hakim Kasmi.
Bonjour Antoine Maret.
Vous revenez de Matignon où Édouard Philippe vient de tenir une conférence de presse sur la méthode et le calendrier de la réforme de la SNCF. Cette prise de parole arrive une semaine après la publication du rapport Spinetta qui a fait grand bruit et le Premier ministre a répondu à la question du jour. Il aura bien recours aux ordonnances.
Oui, et pour justifier le recours aux ordonnances, en prélude de son discours, le Premier ministre a beaucoup insisté sur la situation de la SNCF qu'il qualifie d'alarmante. Un RER sur 6 et un TER sur 10 n'arrivent pas à l'heure. L'entreprise a des coûts de productivité supérieurs de 30% par rapport à nos voisins allemands de la Deutsche Bahn. Et surtout, une dette cumulée de 50 milliards d'euros. Une dette qui devrait encore s'accroître de 15 milliards d'euros supplémentaires d'ici 10 ans. Au-delà de la bataille des chiffres, Édouard Philippe veut aller vite, d'où le recours aux ordonnances, avec la présentation d'un projet de loi en Conseil des ministres dès le 15 mars prochain. Quant à la concertation, elle doit commencer dès demain, car le gouvernement veut également réformer la SNCF de l'intérieur pour la rendre plus productive et plus compétitive face à l'arrivée de la concurrence, avec la mise en place d'un pacte, c'est ce qu'a indiqué ce matin Édouard Philippe, ce qui doit passer également par des activités regroupées, un peu comme en Allemagne. Là aussi, le modèle allemand est très inspiré, mais surtout par la fin du statut de cheminot pour les nouveaux entrants. Édouard Philippe qui précise qu'il tiendra compte tout de même de la pénibilité du métier. Pas sûr que cela suffise à rassurer les syndicats. Des syndicats qui doivent se réunir dès demain pour organiser la riposte. Ils appellent déjà à manifester avec les fonctionnaires le 22 mars prochain. Et pour dénoncer ce qu'ils appellent un passage en force, ils pourraient bien mettre en place d'autres actions avant le 22 mars.
Merci Hakim Kasmi. Les réactions sont hostiles dans l'opposition. Pour le vice-président des Républicains Damien Abad, le gouvernement a recours aux ordonnances. Eh bien, ce gouvernement qui a recours aux ordonnances, tout simplement, déraille. La CFDT dénonce, je cite, une provocation. Elle entend proposer aux autres syndicats un mouvement de grève le 12 mars prochain. Et à gauche, le député de la France Insoumise, Éric Coquerel, voit dans l'annonce d'Édouard Philippe une guerre éclair pour mettre fin au service public de la SNCF et du rail en France. Il était ce matin chez nos confrères de France Info.
De toute façon, la logique de l'ouverture à la concurrence qui a été acceptée quasiment par tous les partis qui ont gouverné ce pays depuis maintenant une vingtaine d'années à Bruxelles, cette logique est en train d'entraîner la normalisation de la SNCF. Et à partir du moment où vous normalisez la SNCF comme n'importe quelle entreprise privée, bien évidemment, vous normalisez le statut de ses salariés qui permettra la précarité, les mêmes attaques sociales que subissent aujourd'hui tous les salariés du privé. Non, c'est extrêmement grave parce que en plus de ça, la menace est claire. S'il y a débat, s'il y a mobilisation, on passera encore plus en force. Donc c'est non démocratique. Et puis, les Français doivent mesurer que c'est la fin du service public de la SNCF, avec tout ce que ça implique comme conséquence en termes sociaux, en termes écologiques, parce que c'est le train qui est aujourd'hui le transport le plus écologique, et puis en termes d'aménagement aussi du territoire. C'est une véritable catastrophe qui s'annonce si on ne se mobilise pas.
Alors, la bataille du rail aura-t-elle lieu? Édouard Philippe, peut-il réussir là où Alain Juppé a échoué? Le Premier ministre joue gros avec cette réforme, et sa décision de recourir aux ordonnances peut être considérée par les syndicats comme un passage en force. Bonjour Stéphane Robert.
Bonjour Antoine.
Ordonnance, vote des principes clés avant l'été, Édouard Philippe prend des risques, mais des risques très mesurés. Hein.
Oui, parce que tout ça a été savamment préparé. Préparation de l'opinion publique dans un premier temps avec ce rapport de Jean-Cyril Spinetta et ces quelques chiffres qu'on entend de façon récurrente depuis la semaine dernière. La SNCF, c'est 24 milliards d'euros de budget annuel de fonctionnement et seulement 10,5 milliards d'euros en termes de recettes commerciales avec la vente des billets. Et donc ça veut dire près de 14 milliards d'euros versés par l'État, chiffre rappelé encore tout à l'heure par Édouard Philippe. Le Premier ministre qui a également encore une fois pointé le montant de la dette, Hakim Kasmi en parlait, 50 milliards d'euros. Bref, le tableau qui est dressé de la SNCF est celui d'une entreprise où l'on jette l'argent par les fenêtres. On annonçait aussi, toujours à travers ce rapport Spinetta, qu'il était nécessaire de fermer tout un tas de petites lignes non rentables. Or, Édouard Philippe a dit ce matin qu'il ne s'y attaquera pas aux petites lignes. On ménage donc les usagers afin de ne pas ouvrir de front de ce côté-là. Vous voyez bien qu'on a là une préparation psychologique de l'opinion. Et puis, d'un autre côté, il y a une volonté de plus ou moins ménager les cheminots. Puisque le statut de ceux qui sont déjà embauchés ne sera pas modifié, c'est pour les futurs embauchés que le statut d'agent SNCF sera supprimé. On aura donc peut-être au départ une forte mobilisation syndicale, mais s'il s'agit de rentrer dans un conflit dur et de longue haleine, les syndicats auront sans doute un peu de mal à mobiliser les troupes dès lors qu'on ne touche pas au statut de ceux qui sont en place. Enfin, l'argument de la privatisation ne pourra pas être utilisé, étant donné qu'il s'agit, à Édouard Philippe, de transformer la SNCF en société à capitaux publics. Alors certes, il y a cette décision d'utiliser les ordonnances pour réformer la SNCF, et ça c'est un chiffon rouge pour les syndicats, notamment la CGT, puisque la SNCF reste un de ses bastions. Mais vous voyez qu'en amont, le gouvernement s'est appliqué à soigneusement déminer le terrain d'une potentielle contestation, ce qui lui donne, comme pour le Code du travail, de vraies chances de faire aboutir cette réforme-là.
Bonjour Pierre-Alexandre Anglade.
Bonjour.
Vous êtes l'invité de ce journal, député de La République En Marche, élu de la circonscription des Français de l'étranger du Benelux et donc au fait des problématiques européennes. Alors cette réforme de la SNCF se fait notamment sous la pression de Bruxelles, hein, ouverture à la concurrence, gouvernance modifiée de l'entreprise. On a là un conflit entre une spécificité française et une réglementation européenne ?
La réforme qui se fait ne se fait pas sous la pression de Bruxelles. Je rappelle que lorsqu'on parle de Bruxelles, on parle aussi de la France, puisque la France est représentée dans toutes les institutions européennes, que ce soit au Conseil, au Parlement européen ou à la Commission. Simplement, la SNCF aujourd'hui croule sous une dette de plus de 50 milliards d'euros, vous l'avez rappelé, qui menace d'engloutir tout le système. Que le transport ferroviaire en France coûte en moyenne 30% de plus cher que ce que ça coûte chez les autres pays européens, et qu'enfin, les retards sur les lignes en France sont deux fois plus importants que les retards chez les Allemands ou les Néerlandais. Et donc aujourd'hui, effectivement, il y a urgence à réformer un système qui, si il n'est pas réformé, menace de s'effondrer, et ce sera donc les usagers et l'entreprise ferroviaire et le service public qui en paieront les conséquences. Donc non, pas de réforme sous la pression de Bruxelles, bien au contraire, une réforme sous la simple pression de la réalité d'une entreprise qui n'a pas été réformée pendant très longtemps et qui doit aujourd'hui se mettre au niveau des standards européens de ce qui se fait notamment en Allemagne, aux Pays-Bas et ailleurs, et ce qui n'est pas le cas aujourd'hui en France.
Merci à vous, Pierre-Alexandre Anglade. On vous retrouve à la fin de cette édition. Ça devait être le média modèle, à tel point qu'il s'est autoproclamé en toute modestie Le Média, un site internet officiellement indépendant, mais fondé par des proches de Jean-Luc Mélenchon et qui vient de connaître son premier couac. Après seulement un mois d'existence, la présentatrice du journal vient d'être écartée. Bonjour Sophie Delpont.
Bonjour.
Aude Rossigneux, c'est son nom, évoque un licenciement et se dit assommée.
Contactée ce matin, Aude Rossigneux n'a pas souhaité s'exprimer directement, mais elle se dit anéantie par ce torrent de boue, faisant notamment référence à la lettre qu'elle a rédigée et qui a été publiée ce week-end sans son consentement selon elle. Dans cette lettre, elle dénonce, selon ses mots, un traitement d'une violence et d'une brutalité qui l'ont laissée dans un état de sidération en raison d'un management qu'elle compare à celui de Vincent Bolloré, patron de CNews, anciennement iTélé, dont cette journaliste avait été rédactrice en chef. Elle parle d'une blessure et d'une souffrance, alors même que Sophia Chikirou, ancienne directrice de la commission communication de Jean-Luc Mélenchon et cofondatrice de Le Média, lui aurait demandé de ne pas faire de mal à la web télé dans la manière dont son départ serait évoqué dans les médias. Ancienne rédactrice en chef à Reporters sans frontières, Aude Rossigneux, à l'origine rédactrice en chef de Le Média, puis devenue simple présentatrice du journal, avait un profil très largement mis en avant au moment de la fondation de cette télé sur Internet comme une caution de sérieux. Vous pourrez d'ailleurs écouter l'interview qu'elle nous avait accordée, disponible en ligne sur franceculture.fr. Elle revendiquait alors l'indépendance éditoriale et l'idée d'une subjectivité honnête dans le traitement journalistique. Contactée ce matin, Sophia Chikirou n'a pas répondu à notre demande d'interview. Gérard Miller, cofondateur de Le Média, évoque un comportement déloyal de la part d'Aude Rossigneux, à qui aurait été proposé de présenter une émission. Quant à Noël Mamère, devenu depuis intervieweur sur Le Média, il nous annonce à l'instant qu'il quitte définitivement Le Média en raison de cette affaire et en raison aussi du niveau décevant du traitement éditorial.
Donc Noël Mamère quitte Le Média, c'est une information importante. Merci à vous Sophie Delpont. Jean-Marie Le Pen n'ira pas au congrès du Front National les 10 et 11 mars prochains. C'est ce qu'il a finalement annoncé chez nos confrères de RTL. Je ne me rendrai pas à Lille parce que je ne veux pas me rendre, si peu que ce soit, complice de l'assassinat du Front National qui va s'y dérouler. C'est ce qu'il a affirmé, celui qui reste donc pour le moment président d'honneur du FN. Jean-Marie Le Pen avait été exclu du parti d'extrême droite par sa fille après de nouveaux propos polémiques sur la Shoah. Une décision qui a donné lieu à une longue bataille judiciaire entre le père et la fille. Dans l'actualité internationale, Angela Merkel réunit ce lundi son parti chrétien-démocrate à Berlin en congrès. Les délégués doivent approuver l'accord de coalition contesté signé avec le SPD en vue de former le prochain gouvernement. À Berlin, les précisions de Nathalie Versieux.
Angela Merkel est engagée dans une opération de restauration de son autorité au sein de son propre parti, la CDU. En fin de matinée, la chancelière a tenu devant les quelques 700 délégués réunis à Berlin un discours militant soulignant les succès de la CDU lors de différentes élections régionales malgré la claque subie au niveau national au cours des législatives de septembre. Le vote des délégués pour la grande coalition avec le SPD semble acquis. Surtout, Angela Merkel, en présentant dimanche les membres de son futur gouvernement, a réussi à circonscrire un début de rébellion de son aile droite en nommant une proche au poste de numéro 2 de la CDU, Annegret Kramp-Karrenbauer, plus conservatrice sur les questions de société et à même de rallier les sceptiques catholiques au sein du parti. Le choix de Jens Spahn, un jeune contestataire de 37 ans, pour diriger le ministère de la Santé, est également salué par la presse comme un coup de maître à même de tuer la rébellion dans l'œuf. C'est entre ces deux figures que se jouera la succession d'Angela Merkel qui s'apprête à entamer son quatrième et dernier mandat.
Et puis au Royaume-Uni, les négociations sur le Brexit viennent de prendre un tournant important. Le chef du parti travailliste Jeremy Corbyn est en ce moment même en train de donner un discours dans lequel il annonce que le Labour veut négocier une nouvelle union douanière avec l'Union européenne. On joint notre correspondante à Londres, Marina Daras. Bonjour.
Bonjour.
Cette position du Parti travailliste sur le Brexit était attendue depuis très longtemps.
Oui, effectivement, cela faisait longtemps que l'on attendait que le Parti travailliste prenne position dans les négociations. Hier, c'est Keir Starmer, chargé de la question du Brexit au sein du Parti travailliste, qui a annoncé que son parti souhaitait négocier une nouvelle relation commerciale avec le bloc communautaire. Et aujourd'hui, c'est Jeremy Corbyn, le chef de file des travaillistes, qui annonce la ligne officielle de son parti. Il souhaite une nouvelle relation forte avec le marché unique, qui inclut un accès au marché européen entièrement libre de droits, mais aussi des protections, clarifications ou exemptions là où elles seront nécessaires et notamment dans les services publics, les aides d'État et le détachement des travailleurs. Alors jusqu'alors, le Labour était extrêmement vague sur sa position pour le pays après le vote sur le Brexit. C'est un changement de stratégie qui pourrait avoir des conséquences dans les négociations avec l'UE et qui devrait accentuer la pression sur le parti de Theresa May qui a perdu sa majorité absolue à la Chambre des communes. Cette décision pourrait ouvrir la voie à une possible convergence entre les députés travaillistes et certains élus conservateurs frondeurs qui souhaiteraient eux aussi voir la Grande-Bretagne rester dans l'union douanière. Et si les deux camps s'allient, ce serait un revers majeur pour Theresa May qui verrait sa position se fragiliser encore un petit peu plus.
Merci Marina Daras. En Syrie, une frappe aérienne de la coalition internationale contre l'État islamique menée par les États-Unis vient de faire 25 morts. Elle a eu lieu à l'est du pays, dans la dernière enclave de l'EI. C'est ce qu'a annoncé l'Observatoire syrien des droits de l'homme. Par ailleurs, le chef de l'ONU exige l'application de la trêve de 30 jours sur l'enclave assiégée de la Ghouta orientale. Les raids aériens du régime de Bachar el-Assad se poursuivent aux alentours de la capitale, et ce malgré l'adoption à l'unanimité d'une résolution appelant à un cessez-le-feu. La Russie, qui a voté la résolution, continue de soutenir son allié syrien. Peut-on pour autant parler de double jeu de Moscou ? Écoutez l'analyse de Bruno Tertrais. Il est directeur adjoint de la Fondation pour la recherche stratégique.
Le jeu russe est malheureusement assez clair. Il consiste d'abord à protéger le régime, et y compris la personne de Bachar el-Assad, en tout cas pour l'instant, et à protéger ses intérêts dans la région, ainsi que de damer le pion aux États-Unis et aux pays occidentaux autant que possible. Moi, je ne vois pas tellement de double jeu. Et là où il y a effectivement un double langage, mais ça, on a l'habitude avec la Russie et avec la Syrie, c'est que sont considérés comme terroristes, entre guillemets, toute faction, tout groupe, tout individu qui ne souhaite pas le maintien au pouvoir de Bachar el-Assad. Donc là, on a une forme de double langage, mais sur le plan politique, je ne suis pas véritablement sûr qu'il y a un double jeu. Malheureusement, le jeu russe est assez clair. Ce qui est moins clair, en revanche, c'est la capacité de la Russie à agir effectivement de manière efficace pour qu'une solution politique soit trouvée sans tarder. Et la réunion de Sotchi, qui a eu lieu il y a quelques semaines, a montré que finalement, la Russie, malgré ses redemontades, n'avait pas tellement davantage de levier d'action sur le terrain, de levier politique d'action sur le terrain, que n'en ont les Occidentaux. Là où il y a peut-être quelque chose à regarder plus près, c'est les raisons pour lesquelles la Russie a approuvé explicitement la résolution, alors qu'elle aurait pu se contenter de s'abstenir pour qu'elle passe. Il s'agit peut-être, je dis bien peut-être, d'un petit signal politique adressé par Moscou au régime syrien, montrant que le soutien de la Russie à la Syrie a peut-être aussi ses limites.
Bruno Tertrais au micro de Valérie Crova. En Irak, le blocus aérien du Kurdistan est prolongé de 3 mois. C'est ce que vient d'annoncer un haut responsable de l'aéroport international d'Erbil. Ce blocus, qui vise les aéroports d'Erbil et de Souleymaniyeh, a été décidé fin septembre, quelques jours après un référendum d'indépendance organisé par Erbil, la capitale de la région autonome, contre l'avis de Bagdad, qui a déclaré ce scrutin illégal. L'interdiction des vols était prévue jusqu'à mercredi. Il y passait de 47 minutes sur France Culture, c'est l'heure de la séquence interview. Pierre-Alexandre Anglade, député de La République En Marche, vous êtes interrogé par Stéphane Robert.
Oui, Pierre-Alexandre Anglade, peut-être un petit mot sur les Britanniques, on vient d'en parler, qui veulent, le Labour en tout cas veut négocier une union douanière avec l'Union Européenne. On sent bien qu'il y a des tentations de nier ce qui s'est passé, de nier le Brexit. C'est possible selon vous? On voit qu'il y a un parti qui s'est créé, Renew, qui se dit d'inspiration macronienne, En Marche en quelque sorte. C'est possible de revenir sur ce qui s'est passé ou pas?
Les Britanniques quittent l'Union Européenne, mais ils ne quittent pas l'Europe géographiquement. Et donc il va falloir évidemment trouver le moyen d'acter ce départ, qui a été souverainement décidé par le peuple britannique, mais en même temps être capable de trouver une nouvelle relation pour que les Britanniques restent le plus proche possible de l'Union européenne, parce qu'ils restent européens. Quand j'entends certains exprimer une volonté ou un attachement à l'Union européenne, j'en suis évidemment heureux. Mais je crois qu'il faut aller au bout du processus qu'est le Brexit, parce que revenir sur un vote souverain des Britanniques, ce serait acter une fois de plus l'idée que lorsque les Européens ne votent pas comme on le souhaite, nous les faisons voter à nouveau pour que ça aille dans le bon sens. Moi, ce que je souhaite, c'est qu'on aille au bout de ce Brexit, et que si un jour les Britanniques ont le sentiment que leur avenir doit se faire dans l'Union Européenne, ils puissent à nouveau candidater. Mais allons au bout de la procédure, et puis dans quelques années, quand tout cela sera réglé, nous verrons bien comment nous pourrons à nouveau éventuellement travailler ensemble.
Il y avait un sommet à Bruxelles ces derniers jours, en fin de semaine dernière. On a vu que c'était difficile, les négociations avec l'Europe. Concession qui a été faite à Emmanuel Macron, les consultations citoyennes. En revanche, les listes transnationales, ça avait été rejeté par le Parlement européen, c'est également rejeté par les chefs d'État. Or, le projet de réforme de la société française d'Emmanuel Macron s'inscrit dans le cadre de la réforme du projet européen. Est-ce que ça va pas être compliqué de faire accepter aux Français les réformes qui sont en cours alors qu'on voit bien que ça bloque au niveau européen ?
La politique au niveau européen revêt un certain nombre de niveaux. Et évidemment, là, quand vous parlez des listes transnationales ou de ce qu'on peut appeler parfois le Spitzenkandidat, dont on dira peut-être un mot tout à l'heure, ce sont des réformes, des questions qui ont un volet institutionnel. Et il y a aussi beaucoup d'autres réformes qui sont liées à la politique, politique de cohésion, à l'agriculture, à l'économie, à la défense, etc. Lorsque vous êtes au niveau européen, vous êtes sur un espace politique où vous êtes à 28, demain à 27. Et donc, faut réussir à trouver des compromis, faire du consensus en Europe, c'est très différent de la vie politique nationale. Et donc sur quelques aménagements institutionnels qui, au fond, n'intéressent pas fondamentalement les Françaises et les Français, eux, ce qui les intéresse, c'est que l'Europe soit plus efficace et qu'elle fonctionne mieux. Mais sur ces quelques ajustements institutionnels, il y a effectivement une situation de blocage qui est en partie due à certaines grandes familles politiques européennes qui ont, pendant très longtemps, organisé la vie politique au niveau européen et qui ne sont pas forcément prêts à certaines évolutions qui sont pourtant nécessaires parce que ça ne va pas dans le sens de leur intérêt. Donc, effectivement, il y a eu sur ces listes transnationales un rejet du Parlement européen. Cela étant, le Conseil s'est entendu pour que, en 2024, qui sera la prochaine échéance électorale européenne, nous puissions avoir ces listes transnationales.
On repousse le problème, en quelque sorte.
Nous estimions que les listes transnationales, c'était une réponse politique au Brexit, qui est une situation tout à fait singulière. C'est un pays qui quitte l'Union européenne, et donc vous ne pouvez pas faire comme si rien ne s'était passé, donc il fallait apporter une réponse politique. Et nous estimions que cette réponse politique passait par plus d'intégration européenne, et donc que les listes transnationales étaient un élément supplémentaire, il y en a d'autres, mais un élément supplémentaire pour réformer, refonder cette union. Ça ne fonctionnera pas pour 2019, mais le débat continuera. Les chefs d'État et de gouvernement se sont entendus à Bruxelles vendredi dernier pour que le débat continue et pour que nous puissions arriver à ces listes transnationales en 2024.
Vous évoquiez à l'instant le Spitzenkandidat. Oui. On va rappeler ce que c'est exactement. C'est la manière dont a été élu Jean-Claude Juncker en 2014, puisqu'il en fait, chaque parti au niveau européen, le Parti Populaire Européen, en l'occurrence pour Jean-Claude Juncker, désigne un candidat avant les élections, et c'est ce candidat qui est amené à présider la Commission européenne. Or, les traités prévoient que ce sont les chefs d'État qui le désignent, et là, il y a un problème, il y a une dissension entre les parlementaires, le Parlement européen qui veut conserver ce système-là, et les chefs d'État, notamment Emmanuel Macron, qui n'en veut pas.
Mais nous estimions que le Spitzenkandidat avait du sens à partir du moment où vous aviez les listes transnationales. C'est-à-dire que nous aurions pu avoir un espace démocratique européen avec des listes sur lesquelles les députés auraient été élus sur un espace européen et pas seulement sur un espace national. Et le Spitzenkandidat aurait pu être celui qui tirait les listes transnationales et donc aurait été élu sur un véritable espace européen et donc aurait eu une légitimité démocratique européenne. Or aujourd'hui, le principe du Spitzenkandidat, ça reste l'homme ou la femme d'un pays et d'un parti. Jean-Claude Juncker, c'est un luxembourgeois qui était à la tête du PPE, mais Jean-Claude Juncker, il n'a pas été désigné sur un espace politique européen. Et donc nous, ce que nous souhaitons, c'était pouvoir avoir ces listes transnationales pour qu'il y ait une véritable démocratie européenne. Et donc, comme ça n'interviendra pas en 2019, effectivement, le Conseil européen a estimé, comme lui en confère le droit dans les traités, que c'est à lui de désigner le futur président de la Commission européenne pour que ce ne soit pas le vainqueur d'un parti qui soit désigné, mais que ce soit celui qui recueille, en fin de compte, le suffrage le plus large au sein du Conseil.
Est-ce que le fait qu'Angela Merkel soit affaiblie, qu'elle ait dû faire de grosses concessions pour former un gouvernement, ne nuit pas à la volonté d'Emmanuel Macron de réformer l'Europe et de faire avancer le
Moi, je suis confiant dans la faculté des Allemands à trouver une solution rapide, parce que maintenant, ça fait plusieurs mois que les élections sont passées, donc il est temps que les Allemands puissent revenir à la table des discussions européennes et que nous puissions avancer. Cela étant, effectivement, c'est une situation assez paradoxale où pendant très longtemps, les Européens et les Allemands en particulier ont attendu les Français. Et au moment où la France retrouve une forme de stabilité politique avec une majorité assez forte à l'Assemblée, avec un président de la République volontariste sur la scène européenne et internationale, effectivement, il y a une forme de paradoxe à voir les Allemands avoir quelques difficultés dans la formation de leur gouvernement. Mais moi, je suis confiant dans la classe politique allemande, qui est une classe politique à l'habitude du consensus, de travailler ensemble et de trouver des solutions. Et donc, dans quelques jours, nous pouvons l'espérer, une coalition sera formée et à ce moment-là, la relance du projet européen pourra être actée, parce qu'effectivement, le moteur européen, c'est évidemment ce moteur franco-allemand, mais il existe d'autres moteurs. Vous savez qu'en ce moment est en train d'être négocié le traité du Quirinale, qui est un traité entre la France et l'Italie, qui sera aussi vecteur d'avancée et de progrès en Europe.
Il y a des élections pour finir l'an prochain, dans un peu plus d'un an. C'est quoi l'enjeu pour En Marche ? quel candidat, quelle tête de liste, puisqu'on va, pourquoi est-ce qu'on fait des listes nationales et plus par circonscription et dans quel groupe vous allez siéger?
Ouais. Traditionnellement, l'élection européenne a été considérée dans notre pays comme une échéance électorale de second rang. Les partis politiques ont longtemps considéré le Parlement européen comme la deuxième division de la vie politique nationale. Nous avons une vision tout à fait différente. Nous considérons que le Parlement européen est l'enceinte qui défend l'intérêt des Européens et où doit se faire le creuset de notre ambition de refondation pour l'Union européenne. Donc nous aurons une ambition très forte pour ce Parlement européen, et c'est la raison pour laquelle nous revenons à une liste nationale qui permettra d'avoir un véritable débat, projet contre projet, ligne politique contre ligne politique, ce qui était empêché dans le débat en sous-région.
Merci à vous Pierre-Alexandre Anglade et merci à vous Stéphane Robert. Cet après-midi, le froid va se confirmer sur la majeure partie du pays. Il fera moins 5 degrés seulement à Reims, moins 1 à Paris, 2 à Cherbourg, 5 à Ajaccio. Froid et sec sur l'ensemble du pays à l'exception du sud-est qui connaîtra quelques précipitations neigeuses. C'est la fin de cette édition préparée avec Emmanuel Faucillon. Prochain journal à 18h, il vous sera présenté par Aurélie Kiefer.